Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Marine Le Pen. François Fillon. Emmanuel Macron. Benoît Hamon. Jean-Luc Mélenchon. Nicolas Dupont-Aignan. Yannick Jadot. Arthaud Cheminade-Poutou. On ne peut pas faire plus équitable comme présentation des candidats à la prochaine présidentielle. Chacun a été mentionné à la hauteur de ce qu'il représente dans les derniers sondages. Les sondages, un des critères retenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le pluralisme pendant la campagne. Bon, alors, soyons honnêtes, il aurait fallu pondérer ce classement avec le nombre d'élus qui soutiennent les candidats, leur score aux dernières élections, leur capacité à animer cette campagne, leur déplacement sur le terrain. Travail titanesque auquel les médias audiovisuels vont bien devoir se soumettre. Les consignes du CSA pour la présidentielle s'appliquent à partir de demain. La règle de l'équité va s'appliquer jusqu'au 10 avril. Viendra ensuite le temps de l'égalité stricte pendant la campagne officielle. Là où l'exercice devient compliqué, c'est que ces règles ne s'appliquent plus seulement au temps de parole, mais aussi au temps d'antenne. Autrement dit, à l'ensemble des séquences consacrées à un candidat en particulier, édito, revue de presse, débat, à condition que celle-ci ne lui soit pas défavorable. Alors s'agit-il d'une mise sous tutelle des rédactions ou au contraire une incitation à traiter de l'actualité politique autrement? Tous les candidats à la présidentielle méritent-ils le même temps d'antenne? C'est la question que nous allons aborder ce soir avec quatre invités, à commencer par vous, Sylvie-Pierre Brossolette, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du CSA en charge des questions de pluralisme, vous avez un passé de journaliste politique, vous êtes notamment passé par les rédactions du Point, de l'Express ou encore du Figaro Magazine. Pour discuter avec vous, Céline Pigalle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous dirigez depuis peu la rédaction de BFM TV. Troisième invité, Jean-Marie Charron, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue des médias, vous avez publié il y a quelques semaines de cela aux éditions UPPR, la presse d'information multi-support, et vous avez signé il y a quelques jours sur le site INA Global, présidentielle, une régulation du temps de parole à contre-temps des usages. Et puis quatrième invité, Vincent Lemaire, bonsoir.
Bonsoir.
Quelqu'un de la maison, vous êtes délégué au programme de France Culture, c'est vous qui êtes chargé de faire respecter les règles du CSA, pas seulement pendant la campagne présidentielle, mais tout au long de l'année, avec cette campagne qui s'ouvre à partir de demain, enfin en tout cas avec ces règles qui vont s'appliquer à partir de demain, est-ce que ça représente un travail quoi, un travail quasiment à temps plein, Vincent Lemaire?
Alors, pour le suivi longitudinal des temps de parole politiques, il se trouve qu'au programme, on est soumis à donc une surveillance qui passe par la remise de tableaux semestriels. Donc, il y a évidemment un pilotage qui se fait au fil de l'eau, mais c'est vrai que les séquences les plus cruciales interviennent vers la fin du semestre où on doit rééquilibrer ce qui doit l'être. Là, on rentre dans une campagne dans un moment évidemment différent qui est celui de la campagne, avec des périodes relativement courtes où les règles vont changer, où les tableaux vont être remis à zéro au bout de 5-6 semaines à la fin de la première période. Donc évidemment, ça va être un investissement important pour les patrons de chaîne, pour les responsables de programme, pour les responsables de rédaction, qui vont devoir effectivement piloter au jour le jour la production de leurs antennes.
Comment est-ce que vous allez gérer cet investissement, Céline Pigalle, à BFM TV? Est-ce que vous avez des postes qui vont être dédiés à cette surveillance-là? Est-ce que vous allez embaucher? Je ne sais pas.
Absolument. Il faut recruter des personnes supplémentaires pour pouvoir faire face à ces nouvelles règles et pour pouvoir comptabiliser notamment ce nouveau sujet qu'est le temps d'antenne, c'est-à-dire pas seulement les moments où un certain nombre de responsables politiques s'expriment, mais aussi les moments où on parle d'eux. Et là, on parle d'un travail en effet titanesque, puisque l'antenne de BFM TV est ouverte 24 heures par jour, et donc 24 heures par jour, il faut savoir quels sont les candidats dont on a parlé, pendant combien de temps.
Alors voilà déjà une bonne nouvelle, Sylvie-Pierre Brossolette. Les règles du CSA sont bonnes pour l'emploi, puisque ça permet de recruter des personnes. Bon, évidemment, au-delà de la petite blague, il faut peut-être d'abord expliquer ce que sont aujourd'hui ces règles. Alors, ce sont des règles assez détaillées, assez précises et assez techniques, mais est-ce que vous auriez la possibilité déjà de nous les résumer dans le cadre d'une première intervention? Puis après, on va aller un petit peu dans le détail.
Bon, quelle est l'idée de la nouveauté de ces règles? À la dernière présidentielle, tout le monde s'est plaint, dans les chaînes de télévision et de radio, de la trop longue période d'égalité qui bloquait complètement la capacité des chaînes à organiser des débats et à faire vivre la campagne, parce qu'il fallait absolument mettre tout le monde sur un pied d'égalité pendant des semaines et des semaines et des semaines.
Voilà, c'était 5 semaines avant le premier tour.
5 semaines, puis 2 semaines de campagne officielle, puis encore 2 semaines de campagne officielle entre le premier et le deuxième tour. C'était vraiment très long et trop d'égalité a tué le débat. C'était absurde, puisque notre mission de faire vivre le pluralisme et la démocratie, c'est quand même qu'il y ait du débat d'abord. Donc le CSA à l'époque avait tiré déjà la conclusion qu'il fallait sans doute assouplir ces règles, à la demande même des chaînes de télévision et de radio. Nous l'avons reproposé en 2016 et cette fois-ci nous avons été entendus par le Parlement qui a voté l'assouplissement de ces mesures. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste en une équité et non plus en une égalité stricte entre les candidats, mais une équité encadrée. Ce n'est pas le renard dans le poulailler, c'est-à-dire que effectivement tout le monde n'aura pas le même temps de parole ou temps d'antenne, mais ce sera respectueux d'un certain nombre de critères et surtout aussi d'un certain nombre de moments dans la journée. Il n'y aura pas les candidats de la nuit, les candidats du jour, et les candidats du 20h, les candidats du 11h. Donc tout le monde aura un peu de temps de parole, un minimum de temps de parole, à une heure comparable. C'est peut-être lourd à manier, mais c'est plus juste et ça permet de faire vivre le débat. Et on a fait des tranches de conditions de programmation comparables assez larges pour que, j'espère, les chaînes de radio-télévision arrivent à s'y retrouver. Mais je pense que c'est un deal gagnant-gagnant.
Alors effectivement, le CSA, après la présidentielle de 2012, avait publié un rapport justement sur l'impact de ces règles sur le débat. Alors c'est vrai que pour une émission comme celle-ci, par exemple du Grand Amour, on avait plutôt fait le choix de ne plus inviter de politique parce que c'était difficilement gérable, les invitations politique. Et on pouvait lire dans ce rapport du CSA, devant la difficulté de garantir l'égalité entre les 10 candidats, les chaînes généralistes ont préféré réduire très sensiblement la retransmission de leurs interventions. C'est pour ça que vous disiez, Sylvie-Pierre Brossolette, que ça avait posé des problèmes pour le débat démocratique. Jean-Marie Charon, est-ce que vous diriez que en la matière, le CSA a plutôt été raisonnable en entendant les récriminations des directeurs de rédaction et en réduisant la période de l'égalité stricte des temps de parole à 2 semaines au lieu de 5 auparavant?
Enfin, 2 fois 2 semaines, quand même. Oui, ça fait voilà. 4 semaines. Hein.
Votre question est un
peu biaisée. Je parle de l'avant-premier tour.
Votre question est un peu biaisée. Hein. Je disais non, il aurait dû maintenir les règles telles qu'elles sont. Non, je pense que le problème est ailleurs. Donc, je ne sais pas, je vais être un peu hors sujet. C'est-à-dire que je pense qu'on a l'impression que l'information, finalement, en matière politique sur l'audiovisuel, c'est essentiellement d'être le relais des politiques. C'est-à-dire que si on n'est pas capable effectivement de transmettre la parole des politiques, de les exposer au public, eh bien finalement le travail d'information n'est pas fait dans de bonnes conditions. C'est quoi le travail d'information d'un média et de l'audiovisuel? C'est pas de transmettre la parole des politiques, c'est d'accompagner le public, de l'aider à comprendre ce qui est en jeu dans un débat public. L'aider à comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire enquêter, ça veut dire analyser. Ça veut dire, dans une période de post-vérité, ça veut dire beaucoup vérifier. Et donc, moi, ce que j'avais observé, alors vous ne relevez pas tellement cette dimension-là, ce que j'avais observé en écoutant les rédactions, c'est qu'elles nous disaient que cette espèce d'obsession sur le temps d'exposition des candidats, eh bien, en fait, enlevait du temps, enlevait des moyens pour être capable de faire un vrai travail d'investigation, un vrai travail de traitement de l'information politique. Donc moi, c'est là que je vois qu'il y a un problème. Ensuite, je reviendrai tout de suite un peu tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on est dans une période un peu surréaliste, c'est-à-dire on est encore dans la télévision à 3 chaînes, je suppose, et où les téléspectateurs sont obligés de regarder ces chaînes.
N'abordons pas tous les problèmes à la fois, hein, non, parce que chacun mérite un examen. En particulier, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, est-ce que vous partagez le point de vue qui vient d'être exprimé, Céline Piga?
Ce qu'il faut dire surtout, c'est que c'est vrai qu'on s'était beaucoup plaint de l'égalité stricte en disant est-ce que réellement chacun des candidats mérite d'avoir précisément le même temps de parole durant une si longue période. Malheureusement, on a été entendu sur ce point, mais ce qui a été inventé en contrepartie est aussi, et va causer aussi de grandes difficultés, parce que en contrepartie, ce qui a été imaginé, c'est de réduire le temps de l'égalité stricte, mais en revanche, de nous demander de décompter, comme je le disais, le temps d'antenne. Et le temps d'antenne, chaque fois qu'il est fait mention de tel ou tel candidat. Et de conserver de l'équité pour chacun de ces candidats, dans la dernière ligne droite, sur des périodes de la journée comparables. Donc imaginez que pour chaque candidat donné dont nous allons parler, il va falloir se demander si tous les autres ont eu un temps d'antenne dans une période de temps comparable dans la journée. Et vous voyez bien que ça va supposer pour nous des décomptes et un pilotage incroyablement fin et beaucoup de temps et d'énergie qu'en effet, on préférerait parfois utiliser pour faire le cœur du métier, pardon, c'est-à-dire du journalisme.
C'est Sylvie-Pierre Brossolette.
Petite précision, ça ne sera pas pour tous les commentaires sur tous les hommes politiques. C'est seulement les séquences qui sont consacrées uniquement à un candidat de manière un peu longue et qui soient pas, clairement pas défavorables. Donc, ça sera rare. Il faudra quand même des blocs. Ce ne sera pas un débat où on mêle plusieurs idées ou plusieurs candidats. Vous pourrez repérer les séquences plus facilement. Je sais que c'est un effort quand même pour les chaînes de radio et de télévision. C'est un effort pour le CSA également parce que nous devons contrôler vos déclarations. Donc, nous avons tous dû nous renforcer en moyens humains. Mais si c'est le prix d'une meilleure démocratie et que beaucoup de monde puisse s'exprimer, je pense que ça vaut le coup.
Pour quelle raison, Sylvie-Pierre Brossolette, au CSA, vous avez été amené à prendre en compte l'équité du temps d'antenne? Est-ce que c'est parce qu'il y avait eu le constat qu'il y avait un trop grand déséquilibre, peut-être dans la façon, alors, plus seulement donc dans la façon dont on donnait la parole aux candidats, mais dans la façon dont on en parlait, et par exemple avec peut-être parfois des bulles médiatiques, comme on peut en observer quand même assez régulièrement dès qu'il s'agit de campagne politique. En ce moment, Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'un traitement qui soit tout à fait équitable par rapport aux autres candidats à la présidentielle.
Justement, on a observé souvent ce type d'emballement médiatique, comme vous dites, de bulles qui se créent autour d'un personnage généralement politique, puisqu'on parle de politique, et à ce moment-là, le temps de parole n'est pas le seul critère pour pouvoir mesurer l'audience et l'exposition qui est donnée au personnage en question, mais le commentaire dans toutes ces émissions et maintenant dans ces formidables chaînes d'infos que Cécile Pigalle représente, il y a beaucoup, beaucoup de commentateurs passionnants qui d'ailleurs font quelquefois de l'analyse de fond. Monsieur Charon, l'un n'empêche pas l'autre, le temps de parole et le commentaire intelligent, mais quelquefois, tous les commentaires étaient pendant des heures sur la même personne toute la journée et on se disait, ça déséquilibre. Et le candidat en question avait peut-être quelques minutes simplement d'exposition, mais après il avait des heures de commentaires. Alors, pour être vraiment juste dans les périodes électorales, hein, où on essaye d'être équitable, il faut équilibrer également le temps du commentaire.
Vincent Le Maire.
Alors, je vais m'exprimer pas du tout sur le mode de la récrimination, parce qu'il se trouve qu'à titre personnel, je suis évidemment tout à fait favorable au principe de pluralisme, pluralisme politique, pluralisme des courants de pensée, pluralisme de tous ordres à l'antenne, et surtout sur le service public.
J'imagine que c'est pour tout le monde, hein,
qu'on représente ici ce soir. Voilà. Et il se trouve que moi, je suis ravi d'apprendre qu'à BFM, on est en mesure d'embaucher des gens pour se livrer à ces comptages. C'est pas le cas partout. C'est pas le cas notamment ici dans cette belle maison. Et donc, du coup, il se trouve qu'effectivement, on a déjà ces très beaux tableaux Excel qui nous servent à piloter le principe de pluralisme, donc un principe d'application permanente, auquel viennent s'ajouter donc ces principes d'équité pour la campagne présidentielle du temps de parole politique, auquel viennent s'ajouter les tableaux Excel du temps d'antenne. Et c'est vrai que, comme ce sont les mêmes personnes que celles qui avant faisaient de la chefferie de rédaction et qui s'interrogeaient effectivement sur les angles, les sujets, ce qu'on faisait, etc., ce sont les mêmes personnes qui aujourd'hui consacrent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps à réfléchir à l'approche de la politique et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps à le nez sur ces tableaux Excel, à essayer d'équilibrer les cases. Et c'est une vérité de tous les jours.
Mais attendez, est-ce que... J'allais dire tous les trois, oui tous les trois, parce que je m'intéresse plus spécifiquement à Vincent Le Maire, Jean-Marie Charon et Céline Pigalle. Vous n'avez pas une vision un petit peu idéalisée de ce qu'est le traitement de la politique ou de ce qu'a pu être le traitement de la politique? Est-ce que s'il n'y avait justement pas eu des excès et effectivement des bulles médiatiques autour de certains personnages, le CSA n'en serait pas venu à mettre en place cette équité des temps d'antenne? Je veux dire, le journalisme politique, en France en tout cas, c'est quand même beaucoup un journalisme de commentaires, c'est pas un journalisme d'investigation.
Alors, juste un petit point d'information, parce que se trouve que j'étais déjà dans cette maison au moment où les premiers comptages proposés par le CSA sont entrés en vigueur. On mesurait donc effectivement le temps de parole politique. Et comme souvent en la matière, c'était le CSA d'abord proposé de faire une photographie de l'existant avant de commencer à vouloir imposer des règles. Et je me souviens très bien que la photographie de l'existant, elle n'était pas brillante. Donc ça, je suis parfaitement honnête avec ça. Il y avait des déséquilibres très forts de temps de parole sur notre antenne.
Mais vous savez que le temps d'antenne, on le demandait déjà à la dernière... campagne présidentielle, mais on ne le publiait pas. On demandait aux chaînes de radio et de télévision de tenir cette comptabilité-là à notre disposition pour, si jamais il y avait d'énormes disparités, on puisse essayer de corriger le tir. Là, on va un petit peu plus loin parce qu'il va y avoir publication et donc qui dit publication dit encore plus de sérieux dans le décompte, la vérification, et ainsi il y aura plus de garanties encore pour les candidats.
Et peut-être aussi donc obligation à réfléchir un petit peu davantage aux pratiques du journalisme, et en particulier du journalisme politique, Céline Pigalle. Ouais,
vous voyez bien aussi que la difficulté, c'est le décompte préalable, les préjugés qu'il faudrait mettre tant de l'un puis tant de l'autre, sans justement être d'abord dans une réflexion éditoriale. Il y a d'abord ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, c'est-à-dire que si on n'est pas content parce qu'on trouve que tel ou tel candidat est surtraité, mais malgré tout on peut éteindre, ça c'est quand même une première chose. Et puis surtout, on aurait pu le faire dans l'autre sens.
Là, on arrête les garés du CSA.
C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, un téléspectateur considère qu'il y a une période longue où on s'est arrêté trop souvent et trop régulièrement sur tel ou tel candidat et tirer la sonnette d'alarme dans un cas précis. Mais vous voyez bien que là, on fait ça au préalable, au dépens finalement. Vous disiez les bulles médiatiques, des gens qui sont parfois trop exposés. Mais il y a quand même aussi des choix éditoriaux qui doivent être faits. Et qu'on alerte a posteriori en disant « je pense que sur ce sujet, vous êtes allé trop loin, ou il y a eu peut-être une difficulté et qu'on essaye de remonter pour savoir », vous voyez, ça serait des coups de sonde, ce serait ponctuel. Tandis que là, on est dans le sens inverse. On exige de nous d'équilibrer, quoi qu'il arrive, quel que soit le propos, qu'il soit intéressant ou non, que cet acteur-là se soit illustré ou pas, vous voyez, on nous demande a priori de lui donner un temps de parole équitable.
Mais c'est sur une période, c'est pas jour par jour, c'est sur des périodes de
mais
plusieurs semaines.
Mais c'est pendant toute la campagne.
Oui, mais c'est la campagne, et c'est normal qu'on ait remplacé l'égalité stricte par quelque chose qui soit... Et c'est de l'équité. Certes, ça vous force à comptabiliser, mais c'est de l'équité. Vous n'allez pas forcément donner le même temps de parole à l'un ou l'autre. Vous pourrez faire vos mini-bulles médiatiques.
Jean-Marie Charron.
Oui, je crois que tout ce dispositif, il repose sur un postulat. C'est que à partir du moment où on asperge le public de manière continue, eh bien, ça va avoir une efficacité. Vous parliez d'une bulle médiatique. Qu'est-ce qui vous dit qu'en matière de réception, en matière de public, une bulle médiatique a de l'efficacité? Dans une bulle médiatique, il y a au contraire des tas d'éléments qui interviennent. De ce point de vue-là, moi, je suis frappé qu'en France, on ait très très peu de cette culture de réflexion sur quelles sont les conditions réelles de la réception. Or, les recherches qui sont faites, notamment en Amérique du Nord, mais on a aussi quelques chercheurs en France qui ont travaillé là-dessus, montrent que en réalité, l'exposition à un message, l'efficacité de l'exposition à un message dépend largement des caractéristiques du public, mais aussi du contexte dans lequel ce message va intervenir. C'est pour ça que je mettais en perspective la question de la parole des politiques d'un côté et le travail journalistique qui est fait de l'autre côté. Si on a un travail, par exemple, de fact-checking très fort, de vérification très fort, qui intervient, peut-être qu'effectivement, on va parler beaucoup de M. Macron, mais s'il y a un vrai travail qui remet en perspective un certain nombre de ses paroles et de ses postulats, l'efficacité de son temps d'antenne n'est pas du tout la même.
Mais Jean-Marie Charron, vous pensez vraiment que s'il n'y a plus la nécessité d'observer des règles et donc de consacrer autant de temps au respect de ces règles, le journalisme aura vraiment plus de temps pour faire du fact-checking, pour faire des enquêtes, pour faire des reportages?
Écoutez, il me semble que si on regarde l'actualité française et internationale, tout va dans ce sens-là. Regardez ce qui découle de la campagne nord-américaine et tout cet enjeu autour effectivement des contre-vérités, des fausses nouvelles, tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux avec effectivement des groupes de pression qui font énormément d'intoxication. C'est ça les conditions du débat de la présidentielle. C'est pas simplement de savoir si un tel ou un tel a eu exactement le même temps d'exposition.
Non, mais vous avez raison qu'il y a d'autres choses que le temps de parole. N'empêche qu'aux États-Unis, pendant la dernière campagne, il y aurait eu un peu de contrôle de temps de parole et de temps d'antenne. Ça aurait quand même un peu rééquilibré les choses. Il y a un moment donné, c'était un déluge sur Trump. Et c'est vrai que c'est peut-être une contrainte en France, mais c'est aussi l'honneur de notre démocratie que d'essayer de laisser une chance à tout le monde.
Oui, parce qu'il faut quand même bien qu'il y ait un petit peu de régulation, Céline Pigalle et Vincent Lemaire. C'est-à-dire que il y a 5 ans, donc les directeurs de rédaction écrivent au Conseil constitutionnel, d'ailleurs au président du Conseil constitutionnel, pour dire voilà, on voudrait que la période d'égalité stricte soit réduite à 15 jours, enfin, la première fois, donc 2 fois 15 jours. C'est obtenu et aujourd'hui, ça semble ne toujours pas être satisfaisant. Quel serait le bon niveau de régulation pour vous, Céline Pigalle?
Vous voyez bien qu'on a ajouté une marche supplémentaire. On parlait du temps de parole.
Enfin, on en est descendu trois et remonté une.
Non, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que le temps de parole va demeurer, et on a ajouté le temps d'antenne. Et on a ajouté le décompte du temps d'antenne.
Pareil. Temps de parole équitable, pas égal.
Certes, ça change mais tout. Mais néanmoins, il faut décompter, il faut essayer de faire des moyennes, néanmoins, il faut être en permanence. Alors, si on était resté purement sur le temps de parole et qu'on avait dit on va faire équitable et non égal, là, on serait allé dans le sens de ce qu'était notre demande. Mais en ajoutant le temps d'antenne, par ailleurs, on ne se pose pas du tout la question. Depuis une semaine, on parle beaucoup d'un candidat de la droite sur les antennes. Est-ce que ce temps d'antenne lui est favorable ? Est-ce que ce temps d'antenne doit être décompté pour François Fillon ou au contraire pour les autres ? Comment est-ce qu'on va, on va ajuster ces questions-là ?
Et bien, profitez d'avoir Sylvie Pierre Brossolette pour les poser la question.
Chacun des sujets... Je pose la question, oui, vous avez raison.
Vous relisez la délibération, on compte... comme temps d'antenne, des séquences qui ne sont pas manifestement défavorables à la personne dont on parle. Je suppose que le candidat dont vous parlez, quand il y a une séquence qui n'est pas très agréable pour lui, ça on le comptera pas en temps d'antenne favorable.
Voilà. Comment, et donc la semaine suivante, on devra le récupérer pour autant de temps d'antenne plus favorable celui-là.
Non, j'ai dit qu'on ne le comptait pas si c'était défavorable. Manifestement comment défavorable.
Oui, mais si c'est pas compté, ça veut dire qu'il faudra...
Il sera en retard dans les jours qui suivent.
Quand on parle de lui à longueur d'antenne, il y a des moments où c'est pas...
Jean-Marie Charon et ensuite Vincent Lemaire.
Comment vous allez compter les commentaires du meeting qui s'est tenu dimanche dernier là, pour François Fillon ? Moi, j'ai entendu des commentaires, effectivement, sur son programme qui pouvaient être intéressants. Et puis, j'ai entendu énormément de choses qui lui étaient extrêmement défavorables. Alors, dans la même tranche, je dirais, de commentaires sur ce meeting. Et ça, c'est le début de la campagne. Ça va continuer comme ça.
Comment vous allez faire, Vincent Lemaire ? Est-ce que c'est à vous d'abord, puisque c'est à vous quand même de fournir ces données. C'est pas le CSA qui mesure.
Il faut préciser effectivement. Alors à Radio France, la situation est un peu spécifique. Enfin, c'est le cas pour d'autres médias, mais pour la question du temps de parole, c'est un prestataire extérieur donc qui réalise les relevés que nous contrôlons, que nous vérifions, et sur lesquels nous travaillons justement pour adapter un peu notre programmation au fil de l'eau. Donc c'est vrai que c'est une charge de travail en moins pour nous, mais c'est un coût évidemment pour l'entreprise. Mais par contre, pour le temps d'antenne, effectivement, c'est aux chaînes elles-mêmes de créer ces fichiers. Et donc, du coup, c'est à nous. Et alors, c'est vrai que là, il y a, mais sur le fond, il y a vraiment un aspect qui est un peu problématique. Alors, on peut considérer que c'est évidemment quelque chose auquel on devrait parvenir, mais on a l'impression que toutes ces règles partent du principe qu'on a une parfaite visibilité, une parfaite connaissance de notre production sur des flux qui sont essentiellement des flux en direct, enfin vous voyez, la production des médias audiovisuels. Et en fait,
vous êtes en train de me dire que vous n'écoutez pas la radio 24 heures sur 24.
Il m'arrive à certains moments tard la nuit de ne pas écouter France Culture, de l'envisager, voilà. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas une parfaite information déjà de notre production, hein, parce que voilà, les journées, donc le nombre d'heures qu'elles comptent, et que pour des chaînes qui émettent effectivement en continu 7 jours sur 7, la nuit, etc. C'est compliqué. Et donc, ça va demander effectivement déjà d'avoir une visibilité beaucoup plus forte qu'on l'a d'habitude sur nos productions.
Céline Pigalle ?
Ce qu'il faut dire pour être juste, c'est que je sais que nous aurons un dialogue avec le CSA en permanence pour essayer d'ajuster ensemble ce qu'il convient de faire de tel ou tel temps de parole, dans telle ou telle séquence médiatique. Mais néanmoins, il reste une charge considérable, des interrogations multiples, des choix permanents, et comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, avec toujours ce raisonnement en arrière-plan, d'où est venue cette demande ? Elle est venue du fait qu'un certain nombre de candidats avaient le sentiment qu'ils n'accédaient pas suffisamment à l'antenne. Mais voyez, on pouvait aussi tourner la chose dans ce sens-là et essayer de faire en sorte que les plus petits candidats aient un minimum de temps d'antenne garanti, par exemple, et qu'on s'entende sur le fait de suivre par moment leur campagne. Mais là, on a renversé finalement la charge, c'est-à-dire qu'on va partir en réalité de ce qui a été fait sur les principaux candidats, parce qu'on va quand même poursuivre notre démarche éditoriale et on va d'abord donc aller au-devant de ce qui nous semble être l'information principale, et puis ensuite...
Ce que vous permet le système de l'équité, justement.
Oui, mais vous voyez aussi l'énergie incroyable que cela va demander de décompter systématiquement. Encore une fois, il faut se représenter. Je ne sais pas honnêtement s'il y a des systèmes comparables ailleurs. Décompter 24 heures d'antenne dans une campagne, c'est-à-dire à un moment où on parle essentiellement de politique. Honnêtement, on ne l'a pas encore essayé. Je ne sais pas à quel point on va y arriver, a fortiori dans la dernière période où il faudra que ce temps soit décompté sur certaines tranches de la journée.
Je comprends très bien que vous disiez que ce soit compliqué dans une chaîne d'info en continu. C'est sûr que c'est pour vous le plus gros défi à relever. Mais il faut se rappeler les conditions dans lesquelles ces nouvelles dispositions ont été adoptées. Au Parlement, il y a eu un très vif débat. Beaucoup de partis et de futurs candidats n'étaient pas heureux du tout de cette disparition de l'égalité pendant 3 semaines.
On avait fait une émission avec Jacques Cheminade à l'époque.
C'était pour rassurer et mettre des conditions, des garanties pour que ces, entre guillemets, petits candidats ou petits partis puissent avoir accès encore à une exposition médiatique satisfaisante, que les parlementaires ont mis ces garde-fous de temps d'antenne à publier, de conditions de programmation comparables. C'est pas juste sorti de notre cerveau. Et le CSA, pour être pas gentil avec les chaînes, c'est vraiment pour vraiment appliquer ce que la loi nous demande de faire et de donner donc des garanties à ces candidats et ces partis qui auront perdu l'égalité pendant quelques semaines.
Jean-Marie Charron, Céline Pigalle se demandait si de tels systèmes de régulation existaient ailleurs. Est-ce que ça existe ailleurs? C'est toujours un peu différent.
Oui, ce qui est très compliqué, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas beaucoup de pays où on a des élections présidentielles avec autant d'impact sur la vie politique. On a les États-Unis, mais comme on le sait, les règles sont extrêmement différentes. Alors après, si vous voulez, on est surtout sur des systèmes de type élections législatives. Alors c'est vrai que souvent, les impacts sont moins violents. Alors c'est vrai qu'il y a dans beaucoup de pays, il y a effectivement des systèmes de régulation. En Grande-Bretagne, il y a des systèmes de régulation avec des autorités qui interviennent dans ce domaine. Mais si on regarde, par exemple, un pays comme la Belgique, il me semble que le CSA fonctionne différemment. C'est-à-dire qu'il y a une négociation avec les rédactions qui se fait au cas par cas, en amont, finalement, de la campagne. Et donc avec, me semble-t-il, plus de souplesse que dans notre approche, là, très commune, s'appliquant à tous les médias. Alors c'est vrai, une fois de plus, qu'on n'élit pas le président de la République en Belgique.
Et puis chaque pays a une histoire particulière. C'est vrai que l'histoire politique française, dans ses rapports avec les médias, ça n'a pas toujours été fantastique. Vous vous rappelez La Voix de la France, hein ? Je suppose que vous ne regrettez pas cette époque. Et donc c'est passé par cette régulation, par un organisme indépendant comme le CSA, pour que le pluralisme existe vraiment. C'est une vraie protection, une mise à l'abri des chaînes contre des pressions extérieures qui pourraient vous imposer de rouler que pour un candidat ou que pour un groupe de pression. On ne se rend pas compte à quel point ça protège tout le monde et ça permet quand même, je pense, plus d'avantages que d'inconvénients.
Bon, et en plus, ça n'est qu'une fois tous les 5 ans, Vincent Le Maire. C'est pas si souvent que ça.
Non, parce qu'encore une fois, une grande partie de ces principes sont d'application permanente. Mais en fait, je voulais témoigner aussi d'une peut-être particularité pour France Culture, qui est qu'il y a en fait une grosse zone grise. Donc, parce qu'à la limite, on ne parlerait que des politiques estampillées politiques, ayant la carte, ayant des responsabilités dans les partis. Bon, ok, on voit bien de qui on parle et on pourrait cartographier cela. Mais il y a la notion donc de soutien. Soutien, ça, c'est une personnalité qui s'engage à un moment explicitement pour un candidat. Ou c'est, et vous voyez ce qui peut se produire à France Culture, quelqu'un qui est parfaitement reconnu et honorablement connu comme professeur de médecine, spécialiste de telle discipline, et qui viendra témoigner de sa spécialité, mais qui se trouve avoir un mandat local, par exemple maire adjoint de sa commune. L'émission qu'il invite ne le sait pas, et boum, en fait on se retrouve avec autant de temps de parole. C'est d'expérience tout à fait Sylvie Pierre Brossolette, parce qu'effectivement, il a une responsabilité politique dans sa commune, et donc il va apparaître dans les comptages. Et puis donc, la question des soutiens, très précisément. Il se trouve que, il nous reste encore en France quelques intellectuels qui peuvent s'engager, qui peuvent à un moment travailler au titre de leurs compétences universitaires ou autres pour un parti ou pour un candidat en campagne, sur son programme justice, sur son programme de lutte contre le terrorisme, sur son programme sur le travail. Ces mêmes intellectuels peuvent travailler finalement 2 mois après pour un autre, peuvent changer d'écurie, etc. À quel moment deviennent-ils soutien de ce candidat ? à quel moment on doit suivre sur Twitter, ah oui, non, il a appelé à voter pour un tel, ah non, il a changé, etc. En fait, ça nous demande d'avoir une attention à ce qui se passe même bien au-delà de la sphère stricto sensu politique, qui est effectivement très compliquée à suivre.
Une attention, mais aussi peut-être une forme de contrainte à ouvrir davantage le débat à des familles politiques. Alors, je sais pas, on reproche parfois à France Culture d'être trop à gauche. On peut se dire qu'avec ces règles, voilà, on entendra aussi d'autres sons de cloche que ceux qu'on entend un peu habituellement. Et peut-être qu'on pourrait exprimer, alors je sais pas si le reproche inverse vaudrait pour BFM, mais qui est dans les lieux communs un peu qu'on entend sur les différents médias, plutôt une chaîne de droite, donc qui s'ouvrirait davantage aux questions de gauche, Céline Pigalle.
Alors, la difficulté, c'est que ces temps d'antenne, si j'ai bien compris, seront consultables. On pourra savoir ce qui a été fait. Et donc ensuite, tout pourra être interprété de toutes sortes de manières. Il y aura par exemple une des tranches qui sera le 6-9, sur lequel il faudra équilibrer. Si la matinale, pour une raison, vous voyez, dans le fil de l'actualité telle qu'il s'est présenté, a surjoué tel ou tel camp, est-ce qu'on en tirera mécaniquement des conclusions en surinterprétant en réalité l'intention éditoriale qui avait été mise versus l'information qui a été soumise au jour le jour aux journalistes et qui se sont donc mis en situation de la traiter. Il y a une autre chose importante. Moi, je suis pas opposée du tout au fait que nous ayons des obligations minimales de traitement de tel ou tel candidat. Au contraire, je vois bien la nécessité de cela. Mais il faut quand même aussi dire qu'on vit dans un monde qui a profondément changé et que, y compris des candidats qui n'auraient pas accès à la télévision, ont aujourd'hui toutes sortes de manières d'exister, de se faire connaître et de vivre. On voit bien dans d'autres secteurs de la population qu'émergent des humoristes qui n'ont pas nécessairement accès au plateau télé, qui sont d'ailleurs ensuite éventuellement récupérés par la télévision. Mais vous voyez comment considérer que c'est en décomptant minute à minute ce qui sera fait ou non dans les chaînes de télévision qu'on pourra avoir un rendu juste de ce qui se joue dans la campagne politique, on exclut tout un champ où il suffit sans doute d'être inventif pour être très valorisé.
Oui, mais au moins, comme ça, on maintient toute une zone des médias classiques qui sont encore des référents. C'est fiabilisé. On sait que si on écoute...
Pour qui sont-ils des référents encore ?
Non, mais quand même.
Et pour qui est-ce que c'est fiabilisé ? Pour les hommes politiques qui auront accès à l'antenne, certainement. Oui, pour les téléspectateurs...
C'est une information donnée quand même par les médias classiques, est encore considéré comme fiable, contrôlé, régulé. Ce qu'on entend, écoutez, moi j'étais 35 ans journaliste politique, ce qu'on entend aujourd'hui sur les réseaux sociaux en matière de politique, c'est quand même souvent n'importe quoi. Donc, qu'il y ait toute une zone... Non, pas mais pour c'est quelquefois des fausses informations, mais des faux chiffres, des faux sondages, des faux débats, des fausses rumeurs. Donc, je pense pas mal qu'il reste des médias classiques et qu'ils soient encore régulés.
Écoutez, c'est une sécurité pour tout le monde. Jean-Marie Charron, je rappelle juste le titre de la tribune que vous avez signé sur le site INA Global, présidentielle, une régulation du temps de parole à contre-temps des usages, dans lequel justement vous évoquez, vous le faisiez tout à l'heure en tout début d'émission, ce côté justement peut-être un petit peu aussi anachronique des règles du CSA, en disant aujourd'hui finalement la fabrique de l'opinion, elle se fait moins dans les médias audiovisuels classiques que dans les nouveaux médias. Mais est-ce que ça veut dire que la conclusion que vous en tireriez, ça serait quoi ? Il faudrait que le CSA étende sa régulation à ces nouveaux médias ?
Mais vous voyez bien que c'est impossible. C'est complètement surréaliste ce que vous proposez. Comment vous voulez compter les nombres de clics ? Non, mais je veux dire, on est dans un autre univers. Hein. C'est-à-dire que il y a une enquête un baromètre qui va sortir à la fin de la semaine dans La Croix. Hein. On est habitué d'ailleurs à ce baromètre. Si je me j'ai jeté un petit coup d'œil sur l'enquête qui nous dit que pour les moins de 35 ans, le média de référence, la source d'information importante, dorénavant, c'est le web. Et la télévision est nettement derrière. Mais ce qu'il y a aussi d'extrêmement intéressant, c'est qu'on voit que dans cette recherche de l'information, vous évoquez qu'est-ce qui se passe sur France Culture quand on traite trop à gauche ou trop à droite. Mais qui est enchaîné à France Culture ? On voit que ce qui se développe dans tous les pays, et tout particulièrement en France maintenant, c'est un mode de recherche d'information que moi j'appelle horizontal, c'est-à-dire qu'on passe par les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les plateformes d'échange. D'ailleurs, certains politiques l'ont compris. Hein. Jean-Luc Mélenchon, il est sur YouTube maintenant. Et comment vous allez prendre en compte cette dimension-là ? Donc, si vous voulez, on est face à des publics qui sont, je dirais, qui vont arriver sur des contenus, effectivement, de médias, mais qui vont aussi arriver sur d'autres contenus, y compris des contenus de partis, des contenus de groupes de pression, etc.
Oui, mais pas forcément, Jean-Marie Charon, pardonnez-moi, mais pas forcément des contenus pluralistes. On sait bien aussi qu'avec avec la question des algorithmes aujourd'hui, on a tendance à trouver, finalement, ce que l'on cherche, ou à chercher ce que l'on trouve. Oui. Ça marche dans les deux sens, c'est que, finalement, on est confronté uniquement à des informations qui vont dans notre sens.
Mais oui.
Donc c'est un vrai problème.
Mais
ça.
Vous voyez
c'est
bien
pas parce
que
qu'on est dans sur les nouveaux médias qu'on a accès à toute la diversité des opinions.
Oui, mais vous voyez bien qu'on revient au début de mon intervention tout à l'heure. L'enjeu pour les médias, c'est plus de passer la parole aux politiques. C'est d'être capable de rectifier, c'est d'être capable des pôles de référence qui analysent, qui décryptent, etc. C'est pas simplement de donner l'accès. Vous, par exemple, vous évoquiez le temps consacré à un candidat. Mais rappelez-vous, déjà la présidentielle la dernière fois, combien de personnes écoutaient un meeting ou une interview sur BFM ou sur ITL, etc., sans avoir un autre écran? Qu'est-ce qui se passe sur cet autre écran? Il n'a pas d'influence, cet écran-là? Qui est des live tweets, qui est sur Twitter toute une série d'éléments de fact-checking qui interviennent, ce sont des éléments qui modifient complètement la donne et qui font que finalement notre raisonnement sur les temps de parole il devient complètement, oui, je dirais, hors sujet.
Non, mais jusqu'à nouvel ordre, une campagne électorale, c'est quand même des candidats qui s'expriment. Donc il paraît logique quand même que pendant quelques semaines, les grands médias leur donnent un peu la parole. Pas excessivement, mais il faut quand même partir de leurs déclarations ou de leurs propositions pour pouvoir après débattre du sérieux de ce qu'ils proposent, de ce qu'ils envisagent et qu'il y ait des points de discussion. Mais donc, il y a d'abord la parole. Ça, c'est vieux comme la démocratie, mais quand même, on ne peut pas leur enlever ça. Après, qu'il y ait tous les commentaires de la Terre et du fact-checking et de la remontée des réseaux sociaux, bien sûr. Mais pour ce qui est de la parole, il faut, et c'est ça que le pluralisme garantit dans nos règles depuis des années en France, ça garantit le fait que tout le monde ait un peu un accès égal, enfin un accès équitable aux médias. C'est quand même un début de justice.
C'est une fiction complète.
Puis, il ne faut pas oublier que ces temps de parole font, vous l'avez raconté tout à l'heure, que dans votre émission, vous aviez abandonné l'idée d'inviter des personnalités politiques. Et c'est le choix de beaucoup de rédactions aujourd'hui de se dire, pour ne pas se créer de difficultés, tout ce qui n'est pas absolument incontournable est finalement laissé de côté, pour ne pas avoir à entrer dans ces différents calculs. Bien sûr que le décompte du temps de parole, lorsque vous avez plus ou moins atteint les bons niveaux pour les différents candidats, vous essayez de ne plus bouger. Vous êtes figé.
Et surtout, ça transforme évidemment le traitement de la politique, en ce sens que, du coup, comme on se dit qu'effectivement il faut réduire la part de notre temps d'antenne consacré à la politique pour pouvoir le maîtriser, du coup, on a tendance à privilégier dans ce temps de l'expression des politiques sur la campagne, certains diraient de la politique politicienne, et du coup on ne fait quasiment plus, on ne donne plus la parole, par exemple, imaginez le grain à moudre avec des politiques, à une parole politique d'expérience, d'expertise sérieuse, qui pourrait convaincre, qui pourrait dialoguer avec des experts, qui pourrait les dialoguer avec des intellectuels. On a tendance, contraint par ces règles, à du coup circonscrire la politique au jeu politique parce que c'est, on considère, le seul endroit où on peut effectivement ménager ces débats-là.
Prenons un exemple concret, Vincent Le Maire. Ce matin, dans les matins de France Culture, était invité Florian Philippot, numéro 2 du FN. Est-ce que justement cette invitation était liée à ces formes de contraintes qu'on a décrites, alors qui n'étaient pas les contraintes du coup de la des nouvelles règles qui entrent en vigueur à partir de demain, mais forcément s'il y en a qui débutent, ça veut dire que les anciennes s'achevaient, en tout cas s'achèvent ce soir à minuit.
Oui, effectivement, donc le compte du pluralisme semestriel, je le disais, en fait il avait été décalé en raison des campagnes pour les primaires et donc il se termine donc effectivement ce 31 janvier.
Donc il fallait du FN pour équilibrer.
Alors, il fallait effectivement, on était en retard dans la catégorie, parce qu'il y a plusieurs catégories d'émissions, en plus il y a les journaux, les programmes et les magazines d'information. Dans la catégorie magazine d'information à laquelle donc appartient les matins de France Culture, il se trouve qu'on était effectivement en retard de temps de parole de Front National, mais pour une bonne raison, c'est que nous on avait considéré que le temps des primaires, parce que justement comme on est sur des périodes relativement restreintes, on n'a pas la capacité d'aménager ce pluralisme, on avait décidé de ne pas faire de grandes invitations politiques dans les matins de France Culture et de le traiter par de l'expertise. Et il se trouve que donc voilà, la séquence des primaires est terminée et que ça me semblait parfaitement légitime de redonner de la parole à des grands invités politiques à l'issue des primaires. Il se trouve que voilà, on a privilégié cette parole du Front National, mais ça n'heurtait en rien les choix éditoriaux de l'équipe de La Matinale et de l'équipe de la chaîne.
Vous savez que vous n'aviez pas de distinction à faire pendant ces 6 mois entre les journaux télévisés et les magazines. Donc vous avez permis de faire des additions dans un souci d'assouplir les choses pour vous.
On est presque au terme de cette émission. J'ai une dernière suggestion à vous faire. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, avec deux notions qui vont fortement déplaire à Jean-Marie Charon, puisque je vais reparler et d'égalité de temps de parole et de médias traditionnels. Mais on a vu qu'avec la primaire de la droite, la primaire de la gauche, il y avait des débats équitables, plus qu'équitables, c'est-à-dire avec une égalité chronométrée des différents débatteurs qui étaient organisés à plusieurs reprises. Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose pour la présidentielle? Est-ce que, par exemple, BFM TV et France Culture pourraient s'associer pour organiser le grand débat des candidats du premier tour de la présidentielle, Céline Pigalle?
Moi, je veux bien réfléchir avec vous à toutes sortes de projets. Mais vous admettrez avec moi qu'il y a quand même une petite difficulté à donner le même temps de parole exact à tous les candidats.
Mais Sylvia Pinel et Benoît Hamon ont eu, par exemple, exactement le même temps de parole pendant les débats. Ça n'a pas semblé poser de gros problèmes.
Est-ce que la réalité de leur poids au sein de leur formation politique était réellement le même et méritait, et donnait d'ailleurs tout à fait le rythme qu'on aurait pu souhaiter au débat? Je vous laisse libre de ce commentaire.
En une seconde, Vincent Lemaire, mais apparemment, ça ne sera pas avec BFM qu'on fera le débat.
Et non, hélas. Mais non, mais pour tous les médias, et en raison de la multiplication des écrans et des médias, c'est devenu très, très difficile aussi de faire venir les politiques, encore plus dans la formation complète du débat de tous les candidats, par exemple avant le premier tour. C'est quasiment impossible de les réunir le même soir sur le même plateau.
Bon bah je remballe l'ensemble de mes suggestions de la soirée. Et je vous remercie tous les quatre, Sylvie, Pierre Brossolette, Vincent Lemaire, Jean-Marie Charon et Céline Pigalle. Émission que vous pouvez réécouter comme chaque jour sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Baer. Émission réalisée par Christine Robert avec la prise de son Anthony Thomasson. Demain à partir de 18h20, la question sera la suivante. Faut-il mettre les archives à l'abri des changement politique. Dans un instant, c'est ping-pong avec Mathilde Serrel et Martin Kénéen. Le sommaire ce soir, Mathilde et Martin.
Bonsoir Hervé. Ce soir, nous partons pour l'Inde avec la critique Ophélie Viel à bord de l'India Express Unlimited, cycle de cinéma indien au Forum des Images jusqu'au 26 février à Paris.
Et avec la romancière Shumana Sinha qui signe L'Apatride aux éditions de l'Olivier et puis un live électrique électrisant de Ponyhawks.
Et tout de suite, c'est le rappel des titres.